Coup double de Vicente Blasco Ibáñez, traduction Félix Ménétrier. En ouvrant sa porte, Pépé trouva un papier dans le trou de sa serrure. C'était un billet anonyme et menaçant. On lui demandait 40 duros qu'il devait déposer cette nuit-là même dans le four qui était en face de sa chaumière. Des bandits terrorisaient la huerta. Celui qui ne se soumettait pas à leurs exigences trouvait ses champs ravagés, ses récoltes pillées et même parfois, en pleine nuit, réveillé en sursaut, avait à peine le temps de fuir son toit de chaume qui s'effondrait dans les flammes au milieu d'une fumée suffocante. Gaffarou, le plus solide garçon de Ruzafa, avait juré de découvrir les bandits. Toutes les nuits, le fusil à la main, il s'embusquait dans les roseaux ou rôdait dans les sentiers. Un matin, on trouva son cadavre dans un canal d'irrigation, le ventre criblé de blessures, la tête fracassée. L'assassin demeura inconnu. Les journaux de Valence eux-mêmes rapportaient ces drames de la huerta où, dès la nuit, poussés par une terreur égoïste, les gens fermaient leurs chaumières, assurant leur sécurité sans se soucier du voisin. À ce sujet, le père Baptiste, alcade du district, fulminait quand les autorités de la ville lui parlaient de l'affaire. Il assurait que lui et Sigrou, son fidèle alguazil, suffisaient pour mettre fin à ce malheur public. Néanmoins, Pépé ne songeait pas à recourir à l'alcade. Il n'aimait pas les mensonges et les vaines fanfaronnades. Le certain, c'était qu'on lui demandait 40 duros et que s'il ne les déposait pas dans le four d'en face, on lui brûlerait sa chaumière, cette chaumière qu'il regardait déjà d'un œil attendri, comme un père regarde son fils agonisant. Il contemplait tristement les murs d'une blancheur éblouissante, le toit de paille brune, les volets bleus, la treille au-dessus de la porte, pareille à une jalousie verte, par où filtrait le soleil avec des palpitations d'or vivant. Les massifs de géranium et de belles de jour bordant la demeure et contenus par un treillis de roseaux. Puis, au-delà du vieux figuier, le four d'argile et de briques, rond et aplati comme une fourmilière d'Afrique. C'était là toute sa fortune, le nid qui abritait ce qu'il aimait le plus. Sa femme, les trois petits, les deux vieux chevaux, ses fidèles compagnons dans la lutte quotidienne pour le pain, la vache blanche qui allait tous les matins par les rues de la ville, éveillant les gens par le tintement plaintif de ses sonnailles, et qui rapportait jusqu'à 6 réaux par jour, avec ses mamelles roses, toujours gonflées de lait. Comme il avait fallu gratter les 4 mottes de terre, que depuis 3 générations, toute la famille avait arrosée de sueur et de sang, pour amasser cette poignée de duros qu'il conservait dans un pot enterré sous son lit. Et maintenant, pouvait-il se laisser arracher 40 duros? Il était un pacifique. Dans toute la huerta, on pouvait répondre de lui. Jamais il n'avait de querelle à propos d'irrigation. Jamais il n'allait au cabaret. Jamais il ne prenait son fusil pour faire le fanfaron. Travailler à force, pour sa pépéta et ses 3 enfants, c'était sa seule passion. Mais puisqu'on voulait le voler, il saurait se défendre. Nom de Dieu, dans ce brave homme si calme d'ordinaire, s'éveillait la furie des marchands arabes, qui se laissent bâtonner par le bédouin, mais se changent en lion quand on veut les dépouiller. À l'approche de la nuit, il n'avait encore rien décidé. Il alla consulter son voisin, un vieillard décrépit, bon seulement maintenant pour couper les ronces dans les sentiers, mais qui, dans sa jeunesse, disait-on, avait envoyé plus d'un adversaire fumer la terre. Le vieux l'écouta, les yeux fixés sur la grosse cigarette que roulaient ses mains tremblantes et crasseuses. Pépé avait raison de ne pas vouloir lâcher son argent, qu'on volât sur la grande route comme des hommes, face à face, en risquant sa peau, soit, mais ainsi, non. Il avait 70 ans, lui, mais on pouvait lui adresser de pareils billets. Voyons, Pépé était-il une femme pour ne pas oser se défendre? Cette ferme assurance se communiqua à Pépé, qui se sentit capable de tout pour sauvegarder le pain de ses enfants. Avec autant de solennité que s'il se fût agi d'une relique, le vieillard tira de derrière sa porte le joyau de la maison, un vieux fusil dont il caressa religieusement la crosse vermoulue. Il voulut le charger lui-même, il connaissait mieux que personne ce vieil ami. Ses mains tremblantes se rajeunirent. Vite, de la poudre, toute une poignée. D'une corde de Sparte, il fit les bourres. Maintenant, une charge de chevrotine, 5 ou 6, puis une décharge de gros plomb, de la cendrée, et par-dessus, une bourre bien battue. Si le fusil, plein jusqu'à la gueule, ne faisait pas son œuvre de mort, ce serait une grâce de Dieu. Cette nuit-là, Pépé dit à sa femme et à ses enfants qu'il allait attendre son tour d'arrosage. Toute la famille le crut et se coucha tôt. Il sortit en fermant bien sa porte. À la lueur des étoiles, il vit sous le figuier le petit vieux en train d'amorcer son fusil bien-aimé. Celui-ci donna à Pépé une dernière leçon pour prévenir toute erreur de tir. Il fallait bien viser la gueule du four et rester calme. Quand les bandits se baisseraient pour prendre le magot, feu ! Rien de plus simple, un enfant le ferait. Sur le conseil du vieillard, Pépé se coucha dans l'ombre de sa maison, entre deux massifs de géranium. Il posa sur la bordure de roseau le canon de l'arme dirigé vers le four. « Maintenant, du sang-froid, » dit le vieux. Il fallait surtout presser la détente au bon moment. Puis il laissa Pépé en ajoutant qu'il aimait bien ces sortes d'aventures, mais qu'il avait des petits-enfants et que, pour ces besogneux-là, il valait mieux être seul. Le vieillard s'éloigna avec les précautions d'un homme accoutumé à rôder par la huerta en s'attendant à rencontrer un ennemi dans chaque sentier. Pépé eut l'impression que dans l'immense plaine, frémissante sous la brise, il n'y avait plus d'autre être vivant que lui et ceux qui allaient venir. Le canon de son fusil tremblait un peu sous les roseaux, mais comme ses pieds touchaient le mur de sa chaumière, il songea que de l'autre côté, sa femme et ses enfants dormaient, sans autre défenseur que son bras, et à cette pensée, il se sentit redevenu presque une bête fauve. L'air vibra, la cloche de la cathédrale de Valence sonna 9 heures. On entendit le grincement d'un chariot qui roulait au loin. Les chiens hurlaient furieusement. Les coassements des grenouilles dans le canal voisin n'étaient interrompus que par les plongeons des rats et des crapauds qui sautaient à travers les roseaux. Pépé comptait les heures qu'il entendait sonner. C'était là la seule chose qui put le tirer de la somnolence et de la torpeur où le plongeait l'immobilité de l'attente. 11 heures. Il ne viendrait plus sans doute. Dieu aurait-il touché leur cœur? Soudain, les grenouilles se turent. 2 ombres apparurent dans le sentier. Pépé crut voir 2 chiens énormes qui tout à coup se dressèrent. C'étaient des hommes qui s'avançaient tout courbés, se traînant presque sur les genoux. « Les voilà !» se dit-il, et ses mâchoires tremblaient. Les 2 hommes se tournaient de tous côtés comme s'ils craignaient une surprise. Ils allèrent examiner la haie de roseaux, s'approchèrent ensuite de la porte de la chaumière et mirent l'oreille à la serrure. Ces manœuvres les avaient amenés 2 fois tout près de Pépé sans qu'il pût les reconnaître. Ils allaient, enveloppés de couvertures, qui leur cachait le visage et dont le bas laissait voir des canons de fusil. Cela accrut le courage de Pépé. C'étaient sans doute les meurtriers de Gaffaro. Décidément, il fallait tuer pour ne pas mourir. Il se dirigeait maintenant vers le four. L'un d'eux se baissa, glissant ses mains dans le four juste dans la ligne du fusil. Un tir magnifique. Mais l'autre bandit qui restait libre. Pépé commença d'éprouver les angoisses de la peur. Une sueur froide lui mouillait le front. S'il tuait l'un, il resterait désarmé devant l'autre, et s'il les laissait partir les mains vides, il se vengerait en mettant le feu à sa chaumière. Mais celui qui faisait le guet, impatienté des lenteurs de son compagnon, le rejoignit pour l'aider dans ses recherches. Les 2 hommes formaient une masse sombre qui masquait le four. L'occasion était bonne. « Du courage, Pépé, tire !» Ce fut un coup de tonnerre qui mit en émoi toute la huerta et souleva une tempête de cris et d'aboiements lointains. Pépé ne vit qu'un éventail d'étincelles, son fusil lui échappa, et il agita ses mains pour se convaincre qu'il n'était pas blessé. Bien sûr, son cher fusil avait éclaté. Il n'y avait plus rien devant le four. Pépé supposa que les bandits s'étaient enfuis, et il allait décamper lui aussi, lorsque la porte de sa chaumière s'ouvrit, laissant passer sa femme, qui, éveillée par la détonation et craignant qu'il ne fût arrivé malheur à son mari, sortait en jupon une lampe à la main. La lumière rougeâtre de cette lampe, agitée par une main effarée, porta jusqu'à la gueule du four. 2 hommes gisaient là, l'un sur l'autre, confondus en un seul corps, comme unis par un clou invisible et soudés par du sang. Le tir avait été juste, le vieux fusil avait fait coup double. Lorsque Pépé et sa femme, avec une curiosité épouvantée, éclairèrent les cadavres pour distinguer les figures, ils reculèrent avec des cris de surprise. C'était Baptiste, l'alcade, et si gros son alguazil. La huerta était sans chef, mais tranquille.